Sans réserve, le balado.
Il n'y a pas de problème autochtone. Si on veut régler les relations qu'on a avec les Autochtones dans notre pays, il faut reconnaître ces nations-là, et leur territoire et la politique. Évidemment, c'était une autre culture, mais je suis tombée dans le bain et je suis jamais ressortie. Si ça n'avait pas été sur la Côte-Nord, j'aurais jamais fait le saut vers le journalisme. C'était parce que c'était sur la Côte-Nord et que je voulais continuer à pouvoir parler des Inuits. La fouille merde, là, c'est d'aller oser appeler l'oblat qui est encore vivant de la couture, puis poser des questions. Ça, c'est la fouille merde. Là. C'est celle qui a un peu de front autour de la tête.
Entrons dans l'univers de Anne Panasoc.
Tous les journalistes, on espère, en dévoilant la vérité sur un événement, sur un phénomène, changer les choses. Je pense qu'on a tous cet espoir-là. Panasoc, c'est un autre immigrant. Là. Mon père est un Russe, lui-même a immigré. Mais... Ma mère, c'est une Québécoise, par contre. Et donc, à Montréal, on n'entend pas beaucoup parler des Autochtones. La première fois, et je me souviens très bien, ma mère est une femme au grand cœur, un grand cœur. C'était une infirmière à l'Institut de réadaptation de Montréal. Puis, elle emmenait des fois des enfants à la maison. Des enfants qui restaient là un mois, deux mois. Mais je me souviens surtout qu'elle avait emmené, je pense que c'était un petit du lac Simon, qui était resté longtemps à l'hôpital et qui n'avait pas de visite. À l'époque, on ne savait pas que c'était des Anishinaabe. Ma mère ne le savait pas. Et donc, en l'emmenant à la maison pour le sortir de l'hôpital, parce que ce n'est pas quelqu'un là, qui est en soins intensifs, c'est quelqu'un qui est en réhabilitation, en réadaptation. Puis d'ailleurs, je ne me souviens pas exactement qu'est-ce qu'il y avait d'enfant. On ne savait pas trop s'il parlait français ou anglais. Et ça, c'était que ma mère, peu importe qui, quelqu'un qui a besoin d'aide, qu'un enfant de n'importe quelle nation, il est bienvenu. Mais en même temps, ça nous est revenu par la suite, parce qu'elle me disait, ah, Aline, c'est une infirmière avec elle. Elle a envie de l'adopter. Puis je dis, pourquoi l'adopter? Mais il n'y avait pas de visite, cet enfant-là. Alors, il y avait comme à l'hôpital convenu qu'il était délaissé. Et puis, on a reparlé quand j'ai fait le balado. J'ai dit, maman, il n'y avait pas de visite. J'ai dit, qui organisait les rencontres avec... Réalises-tu d'où il venait? Pourquoi vous appeliez pas les parents? Puis évidemment, on dit qu'il y avait le téléphone. Est-ce qu'on savait? Est-ce que l'hôpital aurait dû organiser quelque chose de façon à que les parents puissent avoir des nouvelles de leur enfant? C'est probablement impossible pour eux de venir jusqu'à Montréal les visiter. Puis ma mère disait, inquiète-toi pas, il est retourné chez lui, il n'a pas été adopté, puis on l'a revu adolescent, puis il va très, très bien. J'étais gênée de cette pensée qu'on avait à l'époque, je parle des années 60, probablement. Alors, c'est ça, je me souviens de cet enfant-là qu'on avait vu de plus près, puis que, dont on s'occupait. J'étais une bonne étudiante, puis il y avait pas mal de choses qui s'ouvraient à moi, puis j'avais hésité beaucoup entre le droit, puis l'anthropologie, puis je pense que c'était la curiosité des autres, l'idée de comprendre les autres, l'idée probablement qu'il y avait aussi dans ma tête de voyager à l'époque, là. Et puis c'est vraiment Rémi qui m'a détournée, qui nous parlait avec une telle passion de ses études sur les mythes et la mythologie, le structuralisme des Autochtones, mais quand même la façon dont tu parlais des Premières Nations, pour moi, était comme une révélation. Donc, par curiosité, je voulais voir le pays dont nous parlait Rémi Savard, qui a été mon professeur à l'Université de Montréal, qui a été un peu beaucoup, je dirais, mon mentor. Et c'est là que je suis partie, justement, de moi-même, voir la Côte-Nord, rencontrer les Inuits. Des fois, évidemment, je me sentais un peu dépassée parce que à l'époque, c'est pas tout le monde qui parlait français. J'essayais d'apprendre des mots. Le bois ne m'inquiétait pas parce que on a toujours eu un chalet dans le coin de la Macasa ou la Belle. J'ai beaucoup de Panasoc qui sont installés dans le coin de la Macasa parce que j'ai deux oncles aussi qui sont décédés. Mon père est décédé, mais pour les Russes, c'est la même faune, c'est la même flore que dans leur coin de pays. Ils aimaient beaucoup, beaucoup ce coin-là. C'est que j'étais habituée à aller à la pêche, aller dans le bois puis tout ça. Mais évidemment, dans une autre culture, fait que il y avait des moments de solitude, c'est certain. C'est là que j'avais compris, d'ailleurs, quand je me promenais toute seule sur le bord de la plage, là, ils pensaient que je m'ennuyais, que j'avais des problèmes, et là, ils venaient me chercher, justement, pour me laisser seule. Donc, je partais avec eux sur le territoire, puis j'allais rencontrer les vieux pour voir où ils allaient chasser, où ils allaient pêcher, où les gens cueillaient les baies. On avait tous les noms des animaux, de tous les canards, et ça a été une immersion extraordinaire. Saint-Mingan, Natashquan, j'ai habité dans des familles. On les appelle encore aujourd'hui mes familles adoptives. Alors, j'ai un père et une mère adoptive dans chacune des communautés. J'ai perdu mes deux grands-pères, mais j'ai encore deux grands-mères. Puis je suis en contact avec elles régulièrement. Je me souviens quand je suis allée au funérail de mon père adoptif, Pierre-Paul Mistoukoucho, à Natashquan. Ma mère adoptive était là, Yvonnette, puis bon, c'était dans la maison, les gens priaient, puis là, me tirent dans sa chambre, puis on se fait raconter sur l'affaire. Puis là, elle se met à rire de moi. Te souviens-tu quand tu nous as fait manger de l'herbe? Puis j'étais, qu'est-ce que tu racontes, Yvonnette? Parce qu'on est allé sur la rivière Natashquan, et je trouve des têtes de violon. Là, je refais cueillir ça à toute la gang. Hey, ça, c'est bon, je vais faire ça quand on revient à la maison. On cueille les têtes de violon, je reviens. Les gens ont mangé, mais bien gentiment. Mais ce que j'ai compris des années plus tard, c'est qu'ils leur avaient mangé de l'herbe. Quand je pense à leur territoire, tout ce qui me vient, là, c'est l'odeur. C'est l'odeur des épinettes. C'est de voir loin, c'est le silence. Je dis le silence au milieu du vent, là, mais c'est des gens qui rient quand ils sont dans le territoire. Mais c'était vraiment extraordinaire d'être là-bas. Les Inuits ont changé ma vie. Là. J'ai aimé être avec eux. Ils m'avaient accepté. Évidemment, ils se moquaient de moi avec certaines de mes habitudes. Les ajustements étaient des ajustements, évidemment, de culture. Puis c'est normal. J'ai été très heureuse d'enquête. Mais pas tous les journalistes qui aiment faire de l'enquête. Il y a des journalistes qui sont des très bons communicateurs, qui vulgarisent très bien, et c'est parfait. Ils sont dans la bonne place. Mais il y en a qui sont faits pour l'enquête, et je pense vraiment que c'est une question de personnalité. Puis je pense que je suis tout simplement de cette personnalité-là. La journaliste, elle s'indigne. Elle cherche la vérité, elle cherche la justice. J'ai toujours des questions, puis je fais toujours des rapprochements, puis j'en finis plus. Évidemment, je sais que je peux être pétalante pour mon entourage. C'est comme la première lecture des événements ne me suffit pas. Et j'aime ça donc fouiller et j'aime ça comprendre. Il y a des choses que je comprends pas, puis j'aime pas ça et c'est ça qui me donne un peu l'élan. Parce que dernièrement, un recherchiste à l'émission Enquête, Benoît Michaud, que j'aime beaucoup puis qui me recevait, c'est lui qui m'a encore écrit dernièrement. Il me dit, on se souvient de comment tu étais déterminé. Toute la question des papiers commerciaux adossés à des actifs non bancaires, les fameux PCA, toute la crise financière de 2008, là, je comprenais rien, mais c'est pas vrai que je comprendrais pas. L'autre, ben, c'est l'humaine, hein. Je suis une mère, je suis une grand-mère maintenant. C'est d'entendre les gens, puis d'accepter les silences, d'accepter qu'ils rappellent, puis qu'ils disent, j'ai pas tout dit, je vais trouver autre affaire parce que là, ils ont compris que j'écoutais. Puis les réalisateurs me disent, tu prends tous les appels. Une fois la personne a accepté de me parler, là, est-ce que je vais pas prendre l'appel le samedi matin parce qu'elle file pas puis qu'elle dit, ça a été dur de te raconter ça. Puis là, à chaque fois, je leur dis, est-ce que tu regrettes? Non, je regrette pas, mais ça me fait revivre des choses. Puis là, j'ai eu des mauvais rêves. Je vais les prendre tous, ces appels-là. Je suis pas psychologue, mais je peux aller chercher de l'aide, par contre. Puis ça m'est arrivé de devoir avertir tout de suite un psychologue ou d'avertir le voisin, cette personne-là va vraiment pas bien, là. Je vais les prendre tous, les appels, parce que je sais bien que je remue des souvenirs épouvantables. Puis je m'assure toujours, est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes toujours d'accord? Oui, on va aller en nombre, vous êtes d'accord. Mais l'humaine, en moi, ne peut pas... je dis, ben là, j'ai fait mon travail journalistique, puis c'est fini, là. Et là, je me disais, comment je rends ça? Puis c'est toute une réflexion, là. C'est aussi avec le réalisateur. Comment on peut raconter sans qu'on tombe dans le mélodrame total, puis les gens ferment, disent, je suis plus capable. Il faut doser. Avec l'expérience, qu'est-ce qu'on peut mettre? Il faut en mettre. Il faut pas tout mettre. On peut pas tout mettre de toute façon. Il faut que les gens nous suivent. Il faut le tenir par les mains et qu'ils nous suivent jusqu'à la fin.
Les Autochtones, c'est notre colonie interne. Hein? Avant de reconnaître qu'il y a du racisme systémique, là, c'est pour n'importe quel peuple, là, ça prend certaines étapes. Mais moi, je vois un changement. Moi, je vois un changement vraiment depuis une dizaine d'années. Et je pense qu'au-delà des mots, discrimination systémique, racisme systémique, génocide, c'est les actions qu'il faut. Peu importe. On peut en avoir combien de milliers de pages de rapports depuis 20 ans? On en a des recommandations. Il y a des termes forts qui ont été utilisés. Mais c'est les actions qu'il faut. Et là, je pense que ça s'en vient à cause de la pression de la population, cette fois, sur le gouvernement. Je pense que là, les gens canadiens et québécois découvrent la réalité dure de plusieurs communautés autochtones et n'acceptent plus. Et ça, c'est la force que les choses soient filmées. Non, mais c'est incroyable, hein? Ça n'avait pas été filmé, qui l'aurait cru? Combien de gens m'ont raconté, on a transporté un bébé par les pieds, sortant de l'hélicoptère à l'hôpital de Blanc-Sablon, on tenait le bébé par les pieds. Il n'y a pas d'image. Qui va la croire? Moi, si je le raconte, ça me prend d'autres témoins pour dire une chose aussi grave que ça. Je peux pas juste dire, ah, tiens, nos normes à Radio-Canada, ça me prend d'autres témoins, là. Oui, il y en a du racisme. Personne ne le croit parce que personne ne le voit. Là, on l'a vu, ça nous a sauté en pleine face. Et c'est ça, la pression énorme qui est mise sur le gouvernement et qui fait que le gouvernement est obligé d'agir. Il y a un tel intérêt de la part des jeunes journalistes en ce qui concerne les enjeux autochtones, de nos relations avec les Autochtones. Ils sont tous intéressés. Alors que moi, quand j'étais à Sept-Îles, les journalistes se moquaient de moi. Ils m'appelaient Mère Marie des Montagnais. On appelait les Inuits Montagnais. Mère Marie des Montagnais, comme si j'étais celle qui prenait la défense. Mais c'est parce qu'il faut s'intéresser aussi à eux. Là. C'est un monde en 40 ans. Et c'est extraordinaire.
Sans réserve, le balado est une production d'Animikissi Digital Production en collaboration avec les productions Mustang. À la réalisation, Sandy Pinteus. À la gestion et au contenu, Marie-Josée Baudreau.